Le milieu galiléen. Qu'est-ce que je fais, Marc ? Ah bon ?
Merci.
Alors, nous avons vu que le milieu galiléen était caractérisé par la tradition orale, la langue araméenne et l'enracinement dans les targoums, c'est-à-dire les traductions araméennes de la Bible. Le milieu judéen, lui, est extrêmement différent. Ce n'est pas le milieu de la tradition orale, mais c'est le milieu de l'écrit. C'est l'écrit qui est roi, donc c'est la Torah. Et par conséquent, c'est l'hébreu, c'est la langue hébraïque. En fait, la distinction n'est pas aussi tranchée que je le dis là, car il existe aussi, bien sûr, dans le milieu judéen, une tradition orale. Mais c'est une tradition orale qui est un petit peu différente de la tradition orale galiléenne et qui se centre aussi sur une autre différence entre le milieu galiléen et le milieu judéen, c'est la place centrale du temple. Le judaïsme galiléen est le judaïsme de la synagogue, tandis que le judaïsme judéen, c'est le judaïsme du temple. Jésus était un juif de la synagogue et non pas un juif du temple, même s'il lui est arrivé, bien sûr, comme tout juif, de visiter le temple, de s'y sentir chez lui, dans la maison de son père, comme il le disait. Mais Jésus était plus un juif de la synagogue. Il prêchait dans les synagogues et la plupart de ses interventions ont eu de la synagogue pour cadre. En fait, c'est le milieu du temple qui va le rejeter, qui va le livrer aux Romains pour qu'il soit crucifié. C'est un conflit qui va éclater finalement avec les responsables de l'administration du temple, qui va aboutir à son procès, à sa mort. Et ceci, entre autres choses, parce que Jésus va, prêcher contre le temple, à l'image des prophètes, par exemple Jérémie en particulier, qui avait annoncé la destruction du temple. Jésus aussi, à plusieurs reprises, au cours de ses visites à Jérusalem, va annoncer la destruction du temple. Même s'il assimile le temple avec celui de son corps, nous dit l'évangile de Jean, il n'en est pas moins vrai que Jésus a prophétisé la destruction du temple et que cette prophétie a tellement marqué l'Église chrétienne primitive que c'est quelque chose qui nous a été gardé dans trois grands discours qu'on trouve dans les synoptiques, les discours sur la destruction du temple et la fin du monde, dans Matthieu 25, Matthieu 24 et 25, dans Marc 13 et dans Luc 21. Ce sont les discours sur la destruction du temple. Et un des chefs d'accusation qui sera relevé contre Jésus au moment de son procès, c'est que justement, il a blasphémé contre le temple. Et l'on produit des témoins qui sont qualifiés de faux témoins par l'Évangile parce que leur témoignage ne concorde pas, mais qui au moins sont d'accord sur un point, c'est que Jésus a parlé contre le temple. Parler contre le temple, c'est-à-dire il a prophétisé la destruction du temple. C'est ça que les faux témoins appellent parler contre le temple, blasphémer contre le temple. Et le motif essentiel de la condamnation de Jésus devant le Sanhédrin, ça va être justement ce témoignage de ces hommes qui va être décisif, beaucoup plus encore que sa prétention messianique qui, au regard de la loi juive, n'était pas un crime. C'était au regard de la loi romaine que c'était un crime de se dire messie. Mais au regard de la loi juive, bien sûr, on ne pouvait pas juger ni condamner Jésus pour s'être dit ou proclamé le Messie. Mais par contre, Jésus va être condamné essentiellement parce qu'il est intervenu contre le temple au goût justement de ces hommes pour qui le temple était quelque chose de central. Alors, il y a deux réalités, je dirais, qui sont ici aux antipodes, car dans le fond, il faut voir justement dans le procès, dans le conflit de Jésus, la polémique qui est celle des évangiles qu'on trouve dans le Nouveau Testament, un conflit entre le milieu galiléen et le milieu judéen aussi, entre autres, n'est-ce pas ? Le milieu de la Mishnah, c'est-à-dire ce qui est répété en écho, et le milieu de la Mikra, ce qui est écrit, c'est-à-dire la Torah. Il faut ajouter à cela aussi, dans le milieu judéen, la place prise par les apocalypses, et ça nous aurons l'occasion de le voir dans un autre temps. Mais je voudrais ici tout d'abord parler de deux notions qui sont extrêmement importantes pour comprendre justement l'exégèse en particulier de l'Église primitive. C'est ce que dans la tradition juive, dans la tradition judéenne plus exactement, on appelle la halakha, et la Haggadah. Voilà. C'est un H, hein. Un H artistique. Tiens, Catherine ne vient pas ce soir non plus. Ah bon? Bon, alors... Quelle est la différence entre ces deux méthodes d'exégèse? Eh bien, la halakha, ça vient du verbe la lechet, ça veut dire marcher, aller. C'est les instructions de la Bible quant à la conduite, quant à la marche. Donc, si vous voulez, tout ce que nous pourrions appeler les prescriptions morales, les prescriptions législative, les 10 commandements, par exemple, sont du domaine de la halakha. Et la partie halakhatique de la Bible va être étudiée par les rabbins judéens pour être classée en un système. C'est ce système auquel Jésus fait allusion quand il parle justement de cette tradition, etc. Cette tradition qui peut annuler, dans certains cas, effectivement, la parole de Dieu. Et puis ensuite, nous avons la Haggadah. Qu'est-ce que c'est que la Haggadah? C'est tout ce qui n'est pas halakha. C'est-à-dire, c'est tout le reste. Par exemple, les récits historiques, la traversée de la mer Rouge, la sortie d'Égypte, qui n'ont pas, je dirais, un enseignement pratique immédiat, sont considérés comme Haggadah. Haggadah, du verbe hébreu léagid, ça veut dire raconter, dire. N'est-ce pas? Et les rabbins, n'est-ce pas? Et Jésus aussi, finalement. Jésus va s'inspirer aussi de cette méthode d'exégèse, vont distinguer ces deux choses, ce qui est halakha et ce qui est haggadah. Et par exemple, vous pouvez vous amuser, si vous le voulez, à justement prendre un texte biblique quelconque, dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, et puis essayer justement de faire la différence entre ce qui est halakha et ce qui est haggadah. Paul va évidemment, lui, être celui qui va être le plus rompu à ce type d'exégèse. Et si la dernière fois nous avons parlé du milieu galiléen pour l'attacher plus aux évangiles, le milieu judéen, lui, va se retrouver davantage, évidemment, dans les lettres de Paul. Paul, qui avait été instruit au pied de Gamaliel, rabbin judéen s'il en fut, et qui va donc avoir la tournure d'esprit judéenne très 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 fort, n'est-ce pas? C'est peut-être justement ce qui fait qu'on a parfois l'impression qu'il y a, enfin certains ont l'impression du moins, qu'il y a une espèce d'opposition entre Jésus et Paul. Vous savez, c'est courant dans l'exégèse moderne, par exemple, d'opposer Jésus à Paul. C'est tout simplement parce que nous avons affaire à deux tournures d'esprit différentes qui sont le résultat de deux milieux différents. En fait, bien sûr, il n'y a pas d'opposition entre les deux modes de pensée, mais c'est bien quelque chose de complémentaire, et les deux choses d'ailleurs s'interpénétraient, même justement dans la vie de Jésus. Par exemple, si vous prenez le sermon sur la montagne, bien nous avons par exemple là tout un discours qui est de type halakhatique, c'est-à-dire qui a des conséquences pratiques immédiates. Voici ce que vous devez faire, voici ce que vous ne devez pas faire, hein. Ne soyez pas comme les païens quand ils prient, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais voilà comment vous devez prier. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, etc. Bon, là, on a quelque chose de pratique immédiat qui nous montre comment on doit marcher, comment on doit se comporter et comment on ne doit pas se comporter. Donc, nous sommes ici dans le domaine de la halakha. Nous avons, par exemple, des paraboles. L'histoire du mauvais riche de Lazare. Bon, voilà, ça c'est la Haggadah. Avec Ensuite, un enseignement qui, lui, va être du domaine de la halakha. Alors, ce sont des choses que l'on retrouve justement dans l'exégèse biblique. Et si on fait abstraction justement de cette méthode d'exégèse qui était typiquement rabbinique, eh bien alors on est amené à dire des énormités au sujet justement de l'exégèse de la Bible, de l'Ancien Testament, comme du Nouveau Testament d'ailleurs. Alors, justement, ça c'est ce qu'on appelle le rabbinisme. Le rabbinisme judéen, vous le savez, on le retrouve constamment dans le Nouveau Testament, est divisé en deux grands courants, le courant pharisien et le courant sadducéen. Quand nous ferons l'histoire d'Israël de cette période-là, nous reviendrons plus longuement sur les origines de ces deux courants-là. Mais pour ce qui nous concerne, ce soir, nous nous arrêterons simplement sur la différence, justement, à l'époque de Jésus, entre ces deux grands courants. Les pharisiens, prouchim en hébreu, du mot pérouche, pur, séparé, n'est-ce pas ? C'était un groupe de gens qui pouvaient être des laïcs, très souvent d'ailleurs, n'est-ce pas ? Ce n'étaient pas des prêtres, des gens issus de classes sacerdotales, mais c'était des gens du peuple, très souvent, ce qui fait que justement, ils avaient une très large audience dans le peuple, bien qu'ils fussent un petit nombre, quelques milliers tout au plus en Israël. Et c'était des gens qui souvent étaient très engagés, comme on dirait aujourd'hui, dans le siècle. C'était des gens, par exemple, qui tous avaient une profession, qui souvent, n'est-ce pas, se rassemblaient le soir dans la synagogue, dans une partie spéciale de la synagogue qu'on appelait Beth Midrash, c'est-à-dire la maison d'études, pour justement étudier la parole de Dieu. Il leur arrivait justement d'avoir des disciples. Et Jésus, quand il va se comporter comme un rabbi, quand il va rassembler autour de lui un groupe de disciples, quand après le travail, lui-même qui avait un travail, était charpentier, et quand on parle justement de Jésus le charpentier, ce n'était pas quelque chose de péjoratif dans Israël dans ce temps-là, n'est-ce pas, que d'être charpentier. On a souvent tendance aujourd'hui à considérer que Jésus le charpentier, c'était donc quelqu'un, n'est-ce pas, de seconde zone au point de vue social dans la société de son temps. Mais c'était pas le cas du tout, n'est-ce pas? Par exemple, Paul, qui était aussi faiseur de tentes, c'était pas considéré comme quelque chose de déshonorant pour un rabbin, justement, d'avoir un métier manuel. Au contraire, dans une des halakhot qu'on trouve dans le Talmud, il y a cette affirmation rabbinique que l'étude sans le travail manuel conduit au vice. Et les rabbins exigeaient de leurs disciples, les rabbins pharisiens exigeaient de leurs disciples que tous d'entre eux aient un travail manuel. Jésus était donc charpentier, et on trouve par exemple d'autres rabbis qui étaient aussi charpentiers. C'était pas un hasard. Parmi les rabbis les plus célèbres du Talmud, il y a des charpentiers. Paul était faiseur de tentes, disions-nous. Rabbi Akiva aussi avait une profession, Rabbi Gamaliel aussi, n'est-ce pas ? La plupart d'entre eux étaient donc des gens qui étaient vraiment proches du peuple. Ce qui fait que les pharisiens, justement, comme je le disais, avaient une très large audience auprès du peuple, à l'opposition, justement, des sadducéens. Maintenant, les pharisiens étaient des gens qui avaient poussé très loin, justement, cette exégèse de la halakha et de la Haggadah. C'est-à-dire qu'il s'agit d'appliquer à toutes les circonstances de la vie courante, de la vie quotidienne dans laquelle, encore une fois, ils étaient très engagés, les principes de la Torah. Prenons quelques exemples. La Bible dit, c'est un des commandements, des 10 commandements, tu travailleras 6 jours et le 7e jour, c'est le Shabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras donc ce jour-là aucun ouvrage. Bien. C'est tout. Alors précisément, là, il y a une question qui reste en suspens, si j'ose dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura aucun ouvrage? Qu'est-ce qu'il faut considérer comme un ouvrage ou non? Et c'est là justement que la sagacité des rabbins pharisiens va s'exercer. Qu'est-ce qui est permis de faire ou qu'est-ce qui est interdit de faire le jour du Shabbat? Ce n'est pas quelque chose qui est évident. Alors d'abord, on va regarder, bien sûr, dans la Torah elle-même, dans la Bible, dans la Mikra, dans ce qui est écrit. Car précisément, dans la tradition des anciens, c'est-à-dire des hommes de la Bible, comment eux, ils ont vécu ce commandement? Comment les hommes de l'époque d'Ésaïe, comment les hommes de l'époque de Moïse, comment les hommes de l'époque de Jérémie ont-ils vécu ce commandement dans la pratique, dans la halakha quotidienne? Eh bien, par exemple, justement, dans la Haggadah, déjà de l'époque de l'Exode, on trouve un certain nombre d'éléments de réponse. Par exemple, nous voyons un bonhomme dans le livre de l'Exode qui ramasse du bois le jour du Shabbat pour faire du feu. Il est amené à Moïse. Moïse consulte le Seigneur pour savoir ce qu'il faut faire de lui. Et le Seigneur dit qu'on le fasse sortir et qu'on le lapide. Il a violé le commandement du Shabbat. Conclusion donc des rabbins. Eh bien, ramasser du bois et faire du feu le jour du Shabbat, c'est interdit. Voilà. Alors c'est pour ça que par exemple aujourd'hui, eh bien, vous pouvez vous promener à pied le jour du Shabbat, mais pas en voiture, parce que la voiture étant une mécanique dans laquelle il y a du feu, vous allumez du feu, donc vous êtes en opposition avec la halakha. Oui, c'est uniquement pour ça.
Peut-être des problèmes de feu.
Comment? Ah ben l'électricité aussi, c'est considéré comme faire du feu. Bien. Alors, autre élément, on trouve dans le livre du prophète Jérémie une condamnation de ce dernier vis-à-vis des Juifs qui faisaient entrer dans les portes de Jérusalem des fardeaux le jour du Shabbat. Conclusion des rabbins. Porter un fardeau le jour du Shabbat est un travail qui est interdit. Maintenant, il y a aussi ce que la Bible ne dit pas. Et là, justement, il y a des discussions. Il y a des possibilités d'interprétation différentes, justement, du commandement. Et là, justement, dans le Nouveau Testament, nous avons quelques exemples d'une polémique de ce genre dont les rabbins raffolaient à cette époque-là. Par exemple, est-ce qu'il est ou non permis de retirer une vache qui est tombée dans un puits le jour du Shabbat? Voilà, ça c'est un type particulier, c'est typique d'un problème justement que se posent les rabbins pharisiens le soir après leur travail. Bon. Alors, quelqu'un par exemple qui brusquement, n'est-ce pas, tombe malade le jour du Shabbat en danger de mort, est-ce que oui ou non, on va le transporter chez un médecin? Est-ce que le médecin va avoir le droit d'intervenir? Est-ce que le médecin va avoir le droit de sauver le malade? Ben, la Bible ne répond pas. Mais là, la majorité justement des rabbins, la halakha dit, là, c'est un cas où la vie humaine est en danger. Et là, il y avait un précédent, justement, une espèce de jurisprudence dans le passé. Non pas à l'époque biblique, mais à l'époque intermédiaire entre le Nouveau et l'Ancien Testament, vous savez, à l'époque des Maccabées. C'était au moment, justement, où Jérusalem était assiégée par les Syriens et le jour du Shabbat était arrivé. Et bien entendu, en bon observateur scrupuleux du Shabbat, les soldats s'étaient gardés de se battre le jour du Shabbat, considérant que se battre était un travail. Et le résultat, évidemment, fin stratège, Antiochus Épiphane a attaqué le jour du Shabbat et ça a été une boucherie. Conclusion, les rabbins disent là, quand même, on ne peut pas pousser jusque-là les choses. On a le droit de se défendre le jour du Shabbat, mais pas d'attaquer. C'est-à-dire, on a le droit de défendre sa vie et de défendre la vie des autres. Pourquoi? Parce que c'est là, il y a une vie humaine en danger, et la vie humaine est plus précieuse que le respect, justement, du commandement. Et lorsque le commandement, lorsque une vie humaine est en danger, on a le droit de violer tous les commandements, même les plus sacrés, sauf ce qui concerne l'immoralité. Ça. Si bien que si quelqu'un est en danger de mort le jour du Shabbat, eh bien, on va intervenir et on va le sauver, au risque de violer le Shabbat lui-même. Mais une vache par exemple, ben là, il y a des discussions à n'en plus finir. Et c'est pourquoi Jésus lui dit, eh bien, en général, vous le faites. La halakha la plus communément acceptée, c'est que si une vache tombe dans un puits le jour du Shabbat, on va quand même travailler pour la tirer de là, ne se mauvais pas. Alors, Jésus va réagir de cette manière-là à l'occasion d'une guérison qu'il a opérée le jour du Shabbat. Vous vous souvenez, l'homme qui avait la main sèche. Et là, justement, sommes-nous, oui ou non, dans un cas de ce qu'on appelle en hébreu « pikuach nefesh », c'est-à-dire quand il s'agit du salut d'une âme, d'une vie? Non, pas vraiment. Parce que, comme dit le chef de la synagogue, au malade, tu aurais pu attendre demain pour te faire guérir. Mais Jésus dit non, parce que là, en fait, c'était Satan qui tenait cet homme, c'était une femme aussi dans un autre cas, n'est-ce pas? C'était la femme courbée, vous vous souvenez? Satan la tenait courbée depuis je ne sais plus combien d'années, et par conséquent, ça ne pouvait pas attendre un jour de plus. Mais, en ce faisant, n'est-ce pas, Jésus ne viole pas la loi juive. Ce sont justement ces querelles d'interprétation qu'il y avait dans le judaïsme de l'époque de Jésus, dans le milieu judéen de l'époque de Jésus, justement, pour savoir comment appliquer ou non les commandements. Bon, nous avons un autre cas, quand les disciples traversent un champ de blé le jour du Shabbat, et ils prennent des épis entre leurs mains, ils les froissent et ils les mangent. Et là, il y a une grande polémique qui éclate entre certains pharisiens, justement, et Jésus, pour savoir si les disciples, oui ou non, respectaient la halakha ou s'ils l'ont violée. Et de fait, n'est-ce pas, on trouve dans, par exemple, le Talmud, qui date d'un petit peu plus tard que l'époque de Jésus, eh bien qu'on a le droit, le jour du Shabbat, de prendre des épis et de les manger crus, mais pas de les faire rôtir. Pourquoi? Alors là, c'est des discussions trop subtiles dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Mais ceci pour dire, n'est-ce pas, je crois qu'il faut le souligner très fort, Jésus s'est toujours comporté en juif respectueux de la halakha. On ne peut pas mettre en évidence une seule fois où Jésus ait vraiment violé la halakha. Jésus n'a donné au commandement qu'une interprétation haute, qui d'ailleurs était adoptée par certains rabbins. Et il y avait simplement, je dirais, divergences d'interprétation avec d'autres écoles rabbiniques. Mais on ne pouvait pas le condamner d'une manière ouverte comme violateur de la loi, comme violateur de la halakha. Et ça, je crois qu'il faut le souligner, parce qu'on a l'habitude de dire Jésus, n'est-ce pas, qui prenait des libertés par rapport à la loi juive, c'est faux. Jésus s'est toujours comporté en observateur scrupuleux de la Torah. Et quand il a eu un comportement original qui semblait, aux yeux de certains, violer la halakha, il en a donné l'explication au travers d'une autre halakha, d'une autre interprétation. Tu veux dire quelque chose?
Oui, mais donc il n'y avait pas de... Puisqu'on parle de jurisprudence, on est en plein bataille. Mais donc il n'y avait pas une espèce de cour de cassation qui pouvait dire
Non.
Il n'y avait aucune institution, même pas un Sanhédrin, n'importe non. quoi, qui pourrait trancher.
Non.
Donc il y a toutes les interprétations
qui étaient possibles.
Et donc c'est une question entre, comme on dirait nous, une majorité de la doctrine et une minorité, en fait. Bon.
Ouais.
Mais en fait, quoi, ça peut changer comme ça.
Oui, c'était un consensus qui s'établissait petit à petit, quoi. Alors, je crois que c'est très important de souligner ça, n'est-ce pas? Maintenant, et il est certain que les pharisiens avaient introduit un certain nombre de halakhot que Jésus rejetait, que Jésus dénonçait, qui étaient devenus trop contraignants, qui étaient devenus contraires à la pensée de Dieu. Jésus a toujours essayé de découvrir quel était l'esprit des choses, l'esprit des commandements, le pourquoi des choses. Et il ramène toujours à cela. Pourquoi, n'est-ce pas? Pourquoi Moïse nous a-t-il donné telle ou telle prescription, telle ou telle loi? Jésus, par exemple, dira sur l'enfermement sur la montagne, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour les accomplir. » Et vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, et non pas « Mais moi, je vous dis » comme on traduit, mais « Car moi, je vous dis. » Jésus a dit « Qui a mis au maire la reine ?» C'est-à-dire « Car moi, je vous dis. » Voilà ce qui est écrit, selon ce qui est écrit, c'est toujours la manière d'enseigner des rabbins. Et voilà donc l'explication. Le qui introduit l'explication, non pas une opposition. Comme si, n'est-ce pas, Jésus contredisait la loi. Voilà ce qui a été dit aux anciens, mais c'est pas ça qu'il faut croire, c'est ce que moi je vous dis. Non, voilà ce qui a été dit aux anciens, ce qui a été dit aux anciens, c'est bon, c'est vrai. Et voilà la véritable signification. Voilà la véritable interprétation de ce qui a été dit aux anciens. Par exemple, quand il a été dit aux anciens « œil pour œil, dent pour dent », oui, « œil pour œil, dent pour dent », mais qu'est-ce que ça veut dire « œil pour œil, dent pour dent » Ça veut dire quand on te frappe sur la joue droite, donne la joue gauche. Là, Jésus met en évidence le sens réel du commandement, le pourquoi réel du commandement. Quand il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, mais non seulement tu ne tueras pas, dit Jésus. Le commandement signifie non seulement tu ne tueras pas, Jésus ici ne contredit pas, bien entendu, le commandement tu ne tueras pas, mais ça veut aussi dire, n'est-ce pas, bannis de ton cœur tout ce qui peut être à la base justement du meurtre, c'est-à-dire la colère, l'animosité, la haine contre le frère. Tu as entendu qu'il a été dit aux anciens, tu aimeras ton prochain, alors là, ça peut être contradictoire, et tu haïras ton ennemi. Ça, ce n'est pas un commandement pharisien, justement. Ça, c'est une doctrine sadducéenne. Et là, Jésus la prend de plein fouet, de fait. Les pharisiens n'ont jamais dit cela. C'était les sadducéens qui le disaient. Et c'est pourquoi, dans le fond, il y a toujours cette espèce de polémique entre Jésus et les pharisiens dans le Nouveau Testament, parce que Jésus était de loin beaucoup plus proche des pharisiens que des sadducéens. On ne peut pas dire qu'il était pharisien, parce qu'il est inclassable. Mais il est certain qu'il était beaucoup plus proche des pharisiens que des sadducéens. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'Église primitive, notamment dans l'Église du Livre des Actes. Les premières persécutions qui ont eu lieu contre l'Église chrétienne ont été le fait des sadducéens, et non pas des pharisiens. Au contraire, les pharisiens sont venus au secours de l'Église persécutée. Que ce soit Gamaliel, dans son intervention fameuse devant le Sanhédrin après l'arrestation des apôtres, vous savez, après la guérison du paralytique, que ce soit de nombreux pharisiens, nous est-il dit, qui croyaient à l'Évangile. Déjà parmi les disciples de Jésus, il y avait des gens qui étaient pharisiens, Nicodème par exemple.
Dans les Actes aussi.
Comment ?
Dans les Actes aussi.
Dans les Actes, il y avait des
anciens.
Absolument, absolument. Et par exemple, quand on lit les textes les plus anciens du Talmud, c'est-à-dire des écrits pharisiens, eh bien, il n'y a pas un seul mot de controverse contre l'Église chrétienne. Ce qui montre que l'Église chrétienne était sympathique aux pharisiens. Ce n'est que dans un deuxième temps, après la destruction du Temple, lorsque le judaïsme s'est refermé sur lui-même, et que judaïsme, disons, les leaders du peuple sont devenus les pharisiens, que, en quelque sorte, les pharisiens ont excommunié plus exactement les chrétiens, et que les relations entre pharisiens, entre juifs, par conséquent, puisque pharisiens égale juifs à partir de ce moment-là, eh bien, se sont durcies. Car quand on parle du judaïsme aujourd'hui, il faut savoir qu'on a affaire au judaïsme pharisien. Et par exemple, si vous voyez un juif religieux, un rabbin, par exemple, aujourd'hui, certains n'hésiteront pas à vous dire, eh bien, je suis un pharisien. Ça peut choquer parce que pharisien, dans la mentalité chrétienne moderne, c'est synonyme d'hypocrite, c'est synonyme de... ça a une consonance négative, mais cette consonance négative, il faut savoir que c'est un héritage de l'histoire de l'antisémitisme chrétien, finalement. À partir du moment où le christianisme s'est retourné contre le judaïsme et vice-versa, je dirais, au moment de la cassure, du divorce entre les deux grandes familles religieuses, eh bien, le christianisme s'est plu à relire le Nouveau Testament avec un a priori anti-juif et anti-pharisien, et le pharisien est devenu l'image, justement, de l'hypocrite, etc. Alors que, quand on lit, par exemple, les écrits pharisiens eux-mêmes, par exemple, un petit ouvrage qui s'appelle « Les sentences des pères », eh bien, il y a une description du pharisien, du faux pharisien, du pharisien hypocrite, qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans les malheurs à vous, pharisiens hypocrites, etc., on retrouve ça dans les écrits des pères. Donc c'était une critique que les pharisiens se faisaient à eux-mêmes. Et il est bien évident que tous les pharisiens n'étaient pas hypocrites. Il y avait bien sûr une tendance à l'hypocrisie parce que les pharisiens étaient des gens qui étaient religieux et que la tendance à l'hypocrisie est une tendance de tout ce qui est religieux. Et les pharisiens étaient bien conscients de la chose eux-mêmes. Et encore une fois, ils s'appliquaient cette critique à eux-mêmes. Jésus avait des amis pharisiens qu'il n'a jamais dénoncés pour leur hypocrisie. Jésus n'a pas dénoncé Nicodème pour son hypocrisie. Jésus n'a pas dénoncé Simon le pharisien qui était son disciple et dans la maison duquel il a souvent mangé pour son hypocrisie. Il a mis en évidence ce qu'il aurait pu dire de tous les hommes finalement, c'est-à-dire le fait qu'ils étaient obtus, qu'ils étaient fermés à la compréhension des choses du royaume de Dieu. Mais comme il le dira à Nicodème, seul le miracle de la nouvelle naissance pouvait faire en sorte que l'on comprenne les choses du royaume de Dieu. Alors je crois qu'il faut faire attention quand on parle des pharisiens aujourd'hui, de ne pas lire le Nouveau Testament au travers des lunettes qui nous sont héritées finalement de la polémique judéo-chrétienne dans l'histoire. N'est-ce pas ? Il faut se souvenir que Jésus a été très proche des pharisiens dans sa doctrine, dans sa manière d'être, dans sa manière de penser, et qu'il y avait dans le pharisaïsme beaucoup de choses qui étaient bonnes. Paul, par exemple, était pharisien et il était fier de l'être. Et même après sa conversion, il était encore fier de dire qu'il était pharisien. Par exemple, quand Paul sera traduit devant le Sanhédrin, qui était composé à moitié de pharisiens et à moitié de sadducéens, il n'hésitera pas à dire qu'il est pharisien. Et les pharisiens qui sont là, précisément, vont prendre la défense d'un des leurs contre les sadducéens qui, eux, évidemment, voudraient bien condamner Paul. Ça. Devant les Philippiens qui étaient travaillés par des courants ultra-conservateurs dans l'Église chrétienne, ultra-pharisiens par conséquent, Paul dira, sont-ils pharisiens ? Moi aussi, je suis pharisien, j'ai été élevé au pied de Gamaliel, etc. Il était fier de l'être. Alors, je crois qu'il ne faut pas absolutiser, n'est-ce pas, ces descriptions des pharisiens hypocrites. Il faut se souvenir que quand Jésus parlait de l'hypocrisie de certains pharisiens, il voulait mettre en évidence justement l'hypocrisie de tous les hommes religieux qui ont embrassé un idéal élevé. Car je crois que finalement, comme l'a dit La Rochefoucauld, l'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. Et les pharisiens étaient des gens qui avaient embrassé un idéal élevé. Jésus le reconnaissait. Et Paul aussi, quand plus tard il dira, parlant d'eux, « Je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle, mais sans intelligence. » Mais que précisément, certains n'étaient pas toujours à la hauteur de l'idéal qui était le leur, et que par conséquent, cela entraînait une hypocrisie, comme c'est le cas, finalement, comme ça pouvait être le cas des disciples. Et vous savez, je crois que dans l'histoire, hélas, dans l'histoire de l'Église, eh bien, les pharisiens chrétiens, au sens péjoratif du terme, eh bien, ont aussi été légion. Je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. Alors voilà, en gros, si vous voulez, ce qu'on peut dire de ces pharisiens. Maintenant, les pharisiens insistaient aussi beaucoup sur la transmission orale. C'est pourquoi encore ils étaient très proches de Jésus. Cette tradition orale, cette transmission orale dont nous parlions tout à l'heure, dont nous parlions la dernière fois plutôt, et précisément à côté de la Mikra, c'est-à-dire ce qui est écrit, le verbe mikro, écrit, c'est-à-dire la Bible écrite, ils avaient élaboré cette idée, qui n'est pas biblique, et que Jésus va dénoncer d'ailleurs, n'est-ce pas ? Qu'il y avait, on retrouve un peu dans le catholicisme d'ailleurs, il y avait un autre enseignement qui avait aussi été donné par Dieu, qui avait donc la même autorité que la Bible écrite et qui était la Bible orale. La Torah qui vient par la bouche. Torah chez Baal Pé. À côté de la Torah qui vient par l'écrit, Torah chez Baal Ktav. Et cette Torah qui vient par la bouche, on l'appelle la Mishnah, ce qui est proclamé, ce qui est publié par la bouche oralement. Et alors, ils avaient cette idée que cette Torah orale, elle avait été donnée par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Et c'était précisément cette interprétation des commandements. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne feras pas d'ouvrage le jour du Shabbat, par exemple. N'est-ce pas? Et que Dieu avait dit à Moïse de faire en sorte que cette Torah-là ne soit jamais mise par écrit, qu'il fallait simplement qu'elle soit transmise oralement. Et que Moïse a donc transmis cette Torah d'une manière presque, je dirais, secrète à Josué. Josué l'a transmise aux juges. Les juges l'ont transmise à Samuel, qui l'a lui-même transmis aux prophètes. Les prophètes l'ont transmis ensuite aux hommes de la grande synagogue, c'est-à-dire aux anciens de l'époque d'Ezra et Néhémie, qui l'ont eux-mêmes transmis aux rabbis. Donc les rabbis étaient les dépositaires, pensait-il, affirmait-il, d'une tradition vénérable et ancienne qui remontait à Moïse lui-même, qui avait été transmise oralement et qui avait donc la même autorité que la Torah de Moïse. Par exemple, tout n'est pas entièrement faux, remarqué dans cette pensée. Par exemple, la Haggadah de Pâques, celle que vous savez, remonte certainement à une très haute antiquité. Et il était de bon ton jusqu'à ces derniers temps de mépriser la Bible orale. Mais en fait, la Bible orale semble, bien sûr, tout n'est pas juste, tout n'est pas vrai, loin s'en faut. Il y a de tout, quoi. Il y a un mélange. Il y a l'humain, il y a beaucoup d'humain, il y a certainement une grande part d'humain, mais il y a aussi des choses qui viennent vraisemblablement de Dieu. Je vais vous donner, par exemple, quelques illustrations, justement, de ce qu'on trouve dans la Bible orale. En quelque sorte, la Bible orale complète ce que la Bible écrite ne dit pas. Alors, bien sûr, encore une fois, il faut faire la part de l'humain. Par exemple, on prend le récit d'Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, etc. Bon, la Bible orale, les rabbis s'interrogent. Ils disent, mais enfin, Dieu dit à Abraham, comment est-ce que Dieu a parlé à Abraham? Comment est-ce que Abraham a entendu la voix de Dieu? Comment est-ce que Abraham s'est élevé jusqu'à la conception d'un Dieu unique? Alors, il y a ce récit dans la Bible orale que Abraham était un homme qui cherchait Dieu. Et que son père était bien placé pour chercher Dieu parce que son père était un prêtre du Dieu de la Lune. Et qu'il faisait des idoles, en plus de ça, fabricant d'idoles, qui faisait des idoles qu'il vendait justement à tous ceux qui étaient les adorateurs du Dieu de la Lune. Et Abraham faisait des idoles avec son père, bien sûr, il travaillait dans l'atelier de son père. Et Abraham se posait des questions, s'il dit quand même, mais cette idole, c'est un morceau de bois, je l'ai taillé, je l'ai façonné, etc. Comment est-ce que ça peut être Dieu, ça? Et soudain, il a perdu la foi, si j'ose dire, dans les idoles de son père. Alors il a cherché un autre Dieu, il s'est dit, mais qui est Dieu à ce moment-là? Il a regardé dans le ciel et il a vu le soleil. Il a dit, mais ça doit être le soleil qui est Dieu, parce que le soleil, il éclaire toutes choses. Et puis il dit, mais non, parce que le soleil, il disparaît, il meurt. Pour renaître, c'est vrai, mais il meurt, il n'est pas permanent. Donc il ne peut pas être Dieu. Et il a fait la même chose, le même raisonnement pour la lune, il a fait le même raisonnement pour les étoiles. Et c'est dit, ni la lune, ni les étoiles ne peuvent être Dieu parce qu'elles meurent. Et puis soudain, il y a une lumière qui a jailli dans son esprit, dit la Bible orale. Il s'est dit, mais qui fait renaître le soleil chaque matin et qui le fait disparaître le soir? Qui donc a créé le soleil? Qui a créé la lune? Et qui a créé les étoiles? Et Abraham s'est dit, c'est celui-là qui est Dieu. Alors il s'est prosterné devant ce Dieu invisible. Et alors il a entendu la voix de Dieu qui lui dit, Abraham, quitte ton pays, la maison de ton père, etc. Mais avant de faire cela, dit la Bible orale, Abraham a voulu manifester, il a prêché son Dieu. Et pour prêcher son Dieu, il a commencé par un grand acte d'iconoclasme. Il est rentré le soir dans l'atelier des idoles de son père, il a tout brûlé. Et le lendemain, évidemment, gros émoi dans la ville de Babylone, bien sûr, de Ur, hein, dont, dit la Bible orale, Nimrod, le célèbre Nimrod, grand chasseur devant l'Éternel, était le roi. Et Nimrod fait arrêter Abraham, ce profanateur, n'est-ce pas, ce blasphémateur, et Abraham est condamné à mort. il est condamné à être brûlé dans une fournaise ardente. On voit le parallélisme, évidemment, tout de suite avec l'histoire de Daniel. Et puis le même miracle pour Daniel s'accomplit. Pour les compagnons de Daniel, plutôt, Abraham sort vivant de la fournaise. Et Nimrod est convaincu, mais en même temps, évidemment, alors il décide de le laisser partir. Et Abraham part pour le pays de Canaan à partir du moment où il est sorti de la fournaise ardente. Alors on voit évidemment tout ce qu'il y a de légendaire. C'est évident qu'Abraham était dans une culture bien différente, justement, de la culture, en quelque sorte, dans laquelle est née cette légende, cette Haggadah, justement, qui était justement nourrie de toute la réflexion des prophètes de l'époque biblique sur la vanité des idoles. Vous savez, les textes d'Ésaïe 43 sur l'artisan qui fait une idole, qui ne branle pas, etc. Il prend un arbre, il en fait deux morceaux, un avec lequel il fait une idole, l'autre avec lequel il se chauffe, il fait son pain, il mange, etc. Puis ensuite, il se procède devant son idole. Bon, enfin, c'est toute la polémique qui est sous-jacente à cette Haggadah qu'on trouve justement dans la Bible orale. Et bien évident que l'Abraham historique n'avait pas encore ce genre de préoccupation-là, il n'avait pas cette conception philosophique et métaphysique de Dieu, n'est-ce pas, se disant qu'il est celui qui est derrière les étoiles, etc. Bon, mais ce qui est en tout cas très intéressant, et ce qui est historique dans cette Haggadah, c'est qu'effectivement, l'archéologie, comme nous l'avons vu, a prouvé qu'Abraham était bien, la famille d'Abraham était bien une famille de prêtres qui étaient des adorateurs du Dieu de la Lune. Et ça, à l'époque de Jésus, on ne pouvait pas le savoir. C'était quelque chose qui était effectivement venu par une tradition orale. Alors ça a amené certains savants aujourd'hui à revoir avec un œil tout à fait différent ce problème de la tradition orale. Et à penser justement qu'au travers de la Haggadah, eh bien il y a des choses qui sont historiques vraisemblablement et des choses qui méritent évidemment d'être soumises à une critique extrêmement serrée, extrêmement sérieuse, mais qui sont peut-être intéressantes. Et Jésus croyait d'une certaine manière une certaine tradition orale. Par exemple, justement, certainement appartiennent à cette tradition orale tout ce que nous trouvons, en tout cas que Jésus adopte, dans le Nouveau Testament et qui ne sont pas dans l'Ancien Testament. Et que précisément les Sadducéens contestaient. Vous savez que, en tout cas, c'est la définition très lapidaire que le Nouveau Testament nous donne de la différence entre pharisiens et sadducéens. C'est que les pharisiens croyaient dans la vie dans l'au-delà, la rétribution des justes et des injustes, la résurrection, les anges, les démons, enfin le monde de l'au-delà, le monde surnaturel, ce à quoi les pharisiens, les sadducéens ne croyaient pas. Et ils n'y croyaient pas parce qu'ils ne voyaient pas dans la Bible écrite, ils ne voyaient pas de traces de ce genre de doctrine. Et de fait, vous aurez beaucoup de mal à mettre en évidence dans l'Ancien Testament des textes qui nous parlent, en tout cas d'une manière explicite, de doctrines telles que justement les doctrines des anges ou des démons, etc. On le trouve, c'est vrai, mais d'une manière extrêmement discrète. Il en va de même de la résurrection, si l'on nommait le livre de Daniel qui en parle d'une manière explicite. On trouve des allusions à l'espérance d'une résurrection. Par exemple, des textes d'Ésaïe 24 où il dit que le Seigneur anéantit la mort pour toujours. On peut voir également dans le chapitre 37 d'Ézéchiel sur la résurrection des ossements desséchés, peut-être un arrière-plan d'une certaine foi dans la résurrection des morts au dernier jour. Mais la doctrine élaborée telle qu'elle existait dans le milieu pharisien à l'époque de Jésus, on ne le trouve pas. Mais il est bien évident, quand on remonte dans l'histoire historiquement, que les Hébreux de l'époque biblique étaient des gens qui avaient une foi dans la résurrection, qui avaient une foi dans la vie dans l'au-delà, dont on ne trouve pas de traces dans la Bible. La meilleure preuve, que dans l'au-delà, ces âmes vivaient. Et vraisemblablement, il y avait déjà à une époque biblique, une foi dans la résurrection qui était une foi qui était transmise, je dirais, par la tradition orale. Pourquoi justement ce refus de mettre par écrit une telle doctrine par écrit justement? Eh bien, tout simplement pour éviter qu'on arrive à un culte des morts. Je crois que ça, c'était la grande crainte qu'avaient les hommes de l'Ancien Testament, que l'on arrive au culte des morts, que l'on arrive à des doctrines des morts telles que l'on trouve dans les mythologies des peuples environnants, et que précisément toute cette partie de l'eschatologie eh bien, existait, d'ailleurs plus ou moins, sans doute plus ou moins pur, de traces idolâtres, eh bien, dans une sorte de tradition orale qui s'est transmise jusqu'aux pharisiens à l'époque de Jésus. Alors, Jésus reprend cette tradition orale à son compte, c'est bien évident, n'est-ce pas ? Par exemple, quand il parle du saint d'Abraham, qu'est-ce que c'était que le saint d'Abraham dont il est question dans Luc 16, vous savez, la parabole du mauvais riche et de Lazare ? Eh bien, c'était cette pensée que l'on trouvait dans les milieux pharisiens, que dans le Sheol, le séjour des morts, il y avait deux compartiments, si je veux dire. Il y avait celui des morts bienheureux, et puis celui des impies. Les impies qui souffraient en étant parfaitement conscients, alors que les Sadducéens, par exemple, et les Esséniens, si on en croit Joseph du moins, croyaient à l'anéantissement après la mort, n'est-ce pas ? Les pharisiens, eux, pensaient que les justes étaient récompensés, les méchants punis. Et quelle était la récompense des justes ? Eh bien, c'est qu'ils avaient part au banquet eschatologique, au banquet dans lequel étaient Abraham et les patriarches, où l'on mangeait, entre parenthèses, ça Jésus ne le reprend pas à son compte, parce que c'est quand même un peu gros, le plat de résistance, le mets, c'était la chair du Léviathan, Satan, quoi, si vous voulez, ce monstre dont il est question, par exemple, dans le livre d'Ésaïe, qui était apprêté, qui était mangé. Alors, il y avait des spéculations dans la halakha parmi les rabbins, la Haggadah, plutôt savoir si, comment on allait manger cette chair du Léviathan, comment elle serait apprêtée, comment elle serait cuite. Il y avait des recettes de cuisine pour préparer au dernier jour la chair du Léviathan. Alors, vous voyez que c'est vraiment très inégal. Quoi. Dans la tradition orale, il y avait vraiment de tout. Alors, Jésus, n'est-ce pas, lui, par la révélation du Saint-Esprit, qui est la sienne, va, dans cette tradition, dire ce qui est vraiment de Dieu. Et puis dire, le reste, ça annule la parole de Dieu. Vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Et Jésus trie dans cette chose-là, finalement, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas. Alors, ce qui est de Dieu, évidemment, c'est effectivement toute cette existence de ce monde angélique, de ce monde des démons. De cette rétribution des justes et des injustes après la mort, de la résurrection au dernier jour. Évidemment, tout cela, Jésus le cautionne, Jésus le reprend, Jésus l'affirme et le proclame bien fort, n'est-ce pas ? En même temps, n'est-ce pas, que l'espérance messianique de l'avenue du Messie au dernier jour, du Messie surnaturel, du Messie surhumain, la tradition rabbinique ne s'était pas encore élevée jusqu'à la perception d'un Messie d'origine divine. Mais en tout cas, on s'était déjà élevé à cette idée d'un Messie préexistant. D'un Messie qui existait de toute éternité auprès de Dieu et qui serait manifesté au dernier jour et qui serait un être qui ne mourrait jamais, qui serait éternel. Par exemple, il y avait des traditions qui l'assimilaient à Melchizedek. On retrouve ça dans l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas ? Où il est dit que Melchizedek... Alors voilà un exemple typique, justement, de la réflexion rabbinique. Ce n'est pas la halakha ni la Haggadah, c'est encore un autre type d'exégèse qu'on appelle le Midrash. Ça vient du verbe lidrosh, chercher, creuser, sonder. Alors on a le texte, mais il faut essayer de... C'est comme un diamant à multiples facettes. On le tourne sous tous les angles pour essayer justement d'en discerner les mille et mille facettes. C'est-à-dire de voir ce que le texte dit, et puis aussi ce qu'il ne dit pas, car les silences de la Bible sont éloquents. Alors, en général, quand un personnage biblique est présenté, et on a toujours son état civil, comme on disait ensemble la dernière fois, un tel, fils d'un tel... qui est intervenu, n'est-ce pas, l'année de tel roi ou à tel moment d'histoire, n'est-ce pas, qui a engendré tel et tel fils et puis qui est mort, n'est-ce pas, après avoir vécu tant et tant d'années. Bon, ça, c'est pratiquement courant. Vous avez un personnage qui échappe à cette règle, c'est Melchizedek. Les rabbins l'avaient remarqué. Melchizedek, il apparaît comme ça, sans qu'on sache ni d'où il vient, ni d'où il va. Quelle est son origine et quelle est sa fin. Quel est son père? Quels sont ses descendants? Dans quelles circonstances il est mort? Conclusion des rabbins, il n'avait pas de père, donc il n'a pas de commencement. Donc il est éternel. Et il n'a pas de fin, puisqu'il n'a pas de descendance, puisqu'il n'a pas de fin qui est indiquée dans la Bible, donc il est aussi, il est préexistant et il est éternel. Donc c'est une image du Messie. Et il y a ce texte du psaume 110, « Tu es sacrificateur, tu es prêtre à toujours, selon l'ordre de Melchizedek, à toujours, disent les rabbins. » C'est donc bien la preuve que Melchizedek est éternel, que Melchizedek est préexistant et éternel. Et Melchizedek est assimilé au Messie. Je ne veux pas dire qu'il faut faire nous cette assimilation-là, hein, mais je veux dire qu'il la faisait. Et il y avait donc dans la tradition rabbinique, la tradition pharisienne, et non pas sadducéenne, ni essénienne. Mais dans la tradition pharisienne, si essénienne aussi, pardon, ça c'est, on trouve ça aussi chez les Esséniens, cette pensée que le Messie, à partir de textes comme celui de Melchizedek, était préexistant et était éternel. On trouve aussi chez les rabbins cette pensée qui est le fondement du christianisme. Que la justice d'un homme, particulièrement saint, des justes d'une certaine manière, c'est-à-dire des prophètes, et puis surtout des martyrs, a une valeur expiatoire pour les péchés des autres. On trouve par exemple dans la foi pharisienne, cette idée que ceux qui sont morts pour le Kiddush Hashem, c'est-à-dire pour sanctifier le nom de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont morts martyrs, si vous voulez, eh bien, acquièrent auprès de Dieu un mérite extraordinaire. On trouve ça d'ailleurs dans la tradition chrétienne, dans l'Apocalypse, vous savez, les martyrs qui ont été décapités à cause de Christ, qui sont sous le trône, sous l'autel de Dieu, qui clament vers le Seigneur, disant jusqu'à quand tardras-tu à tirer vengeance, alors une couronne d'or leur est donnée, etc. Enfin, ils ont une place particulière. Hein. Et puis finalement, ils ont leur prière et leur martyr permet justement que les péchés d'Israël soient expiés par ces gens-là. Et précisément, Jésus apparaît comme la mort de Jésus apparaît comme celle d'un martyr juif et d'un martyr particulièrement saint, le plus saint qui ait jamais été. Et c'est pourquoi son martyr, son sacrifice, peut avoir une valeur expiatoire justement pour les péchés de tous les hommes, de tous les temps, de tous les lieux. Ça, c'est une idée pharisienne. C'est assez curieux de le découvrir, et pourtant c'est ainsi. Et c'était tout à fait facile. On comprend pourquoi de nombreux pharisiens s'étaient tournés vers l'Évangile dans les premiers temps de l'Église, parce que c'était des choses, des notions qui leur étaient tout à fait familières et c'était des notions qui leur étaient tout à fait accessibles. Alors voyez-vous, cette grande, comment dirais-je, cette relation extrêmement étroite entre l'Église primitive et puis le milieu pharisien. Et ce n'est pas une des choses les moins curieuses de constater que finalement, il y a eu un divorce entre pharisiens et puis l'Église. Enfin, peut-être est-ce normal. C'est souvent les inimitiés entre les frères qui sont les plus aiguës, les plus ardentes, n'est-ce pas ? Mais je dirais qu'au départ, du moins, eh bien, l'Église s'enracine aussi dans le milieu pharisien. L'Église s'enracine aussi dans le milieu judéen-pharisien, comme elle s'enracine dans le milieu galiléen, dont nous parlions ensemble la dernière fois. Et puis nous verrons aussi qu'elle s'enracine dans d'autres courants du judaïsme de ce temps-là, le milieu apocalyptique, ou les milieux apocalyptiques, que l'on connaît mieux depuis la découverte des documents de Qumran, en particulier, c'est-à-dire des Esséniens. Mais les Esséniens étaient un milieu apocalyptique, il y en avait d'autres. un courant apocalyptique. Alors, on s'est souvent posé la question, on s'est dit, mais dans le fond, alors, est-ce que vraiment l'Évangile est quelque chose d'original ou non ? Hein, c'est la question qui peut se poser. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'évolution normale de ces courants qu'il y avait dans le judaïsme à l'époque de la fin du deuxième temple, donc à l'époque du Nouveau Testament ? Alors, je crois que la première constatation qu'on peut faire et que nous ferons finalement au terme de ces études, c'est de constater que, eh bien, l'Église est enracinée dans son milieu juif. L'Église primitive, c'est vrai. Et je dirais, c'est normal. C'est normal parce que c'est l'incarnation qui le veut. C'est normal que cette foi d'Israël, qui était finalement nourrie de tous les apports successifs de Moïse, des prophètes, des sages qui ensuite avaient réfléchi sur les choses de Dieu après que l'Esprit ait été retiré d'Israël, il est normal que Jésus et que les apôtres se soient abreuvés à cette source-là. Jésus était, et le christianisme primitif était, l'accomplissement des espérances d'Israël. Donc il était normal que le christianisme soit au confluent de tous ces courants-là. Mais le christianisme n'est classable dans aucune des catégories que nous avons évoquées. Il y a des points nombreux, très, très nombreux, avec le pharisaïsme. Mais il est bien évident que le christianisme n'est pas. Jésus n'était pas pharisien. Les apôtres n'étaient pas pharisiens. Paul n'était plus pharisien quand il s'est tourné vers Jésus-Christ. Il a cessé de l'être. C'est très clair. Le christianisme n'était pas essénien, comme on a essayé de le croire après la découverte des manuscrits de la Mer Morte. Il y a des points très nombreux avec l'essénisme, nous avons l'occasion de voir. Mais le christianisme n'était pas un essénisme rebougi. Il y a des différences énormes. Et en fait, on a toujours essayé de classer Jésus dans une des catégories de son temps. On a essayé de faire de lui un zélote, avec beaucoup plus de difficultés. On a essayé de faire de lui un sadducéen aussi. Ça a toujours échoué, parce que Jésus est inclassable, parce que le christianisme transcende tous ces courants-là. N'est-ce pas ? Parce que c'est quelque chose qui vient du ciel, pas quelque chose qui vient de Dieu. Alors qu'il s'incarne dans les choses de la terre, mais qui va au-delà, bien au-delà, et qui amène une révélation tout à fait nouvelle, en même temps qu'ancienne. Je crois qu'un texte fondamental pour définir la doctrine de Jésus, c'est la définition que Jésus en donne lui-même. Le scribe instruit des choses du royaume de Dieu, semblable à un homme qui tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Jésus avait puisé dans le trésor de la tradition d'Israël ce qui était de Dieu, ce qui était valable, tout en lui donnant un souffle nouveau. Et puis il avait apporté des choses nouvelles, une vision nouvelle, une réalisation nouvelle, une dimension nouvelle. Et c'est en cela que il nous faut nous toujours éviter deux choses. Ne jamais oublier Jésus, le Fils de Dieu, et Jésus, le Fils de l'homme. L'Évangile qui, je dirais, vient du ciel et puis finalement qui s'incarne sur la terre. Ce sont les deux dimensions qui sont contradictoires et que l'homme a tellement de peine à accepter. Jésus, et c'est toujours la tentation qui est à l'origine des hérésies de l'Église dans l'histoire. Par exemple, il y a deux hérésies sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir, mais qui découlent directement justement de cette non-compréhension de cette dimension-là, de ces deux dimensions, celle à la fois du Fils de Dieu et du Fils de l'homme. Au IIe siècle, ce sont des hérésies du IIe siècle. La première, c'est ce qu'on appelle le marcionisme. Marcion était un homme qui était arrivé à la conclusion, c'était un juif d'ailleurs au départ, il s'était tourné vers Christ, il était originaire des bords de la mer Morte d'ailleurs, Et Marcion était arrivé à la conclusion que, en fait, il y avait deux dieux. Il y avait le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu d'Israël, qui était le Dieu jaloux, sévère, cruel, assoiffé de sang, etc. Le Dieu de la loi. Et donc, que ce Dieu-là était un Dieu mauvais, si je vous dis. Et puis qu'il y avait Jésus, le deuxième Dieu, qui lui était le Dieu d'amour, le Dieu de la grâce, le Dieu du Nouveau Testament. Et Marcion considérait que tout ce qui venait d'Israël avait donc à voir avec ce Dieu cruel et mauvais et devait être rejeté. Que l'Ancien Testament, par conséquent, n'avait plus aucune valeur maintenant que la révélation du Dieu parfait, du Dieu bon, du Dieu d'amour était venue en la personne de Jésus-Christ et qu'il fallait garder uniquement le Nouveau Testament. Eh bien, c'était quelque chose de terrible que la doctrine de Marcion. Bien sûr, telle que je la résume ici, elle est excessive. Et personne aujourd'hui ne s'en réclame plus, dans ces termes-là du moins. Mais l'Église, jusqu'à aujourd'hui, porte le marque du marcionisme. Vous entendez souvent dire, par exemple, à des gens qui abordent l'étude de la Bible pour la première fois, « On veut commencer par le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament, de toute façon, vous n'y comprenez rien. » C'est faux. Moi, je dis, ça, c'est martien, c'est du marcionisme. Comment voulez-vous comprendre le Nouveau Testament? Comment voulez-vous comprendre l'œuvre de Christ sur la croix si vous n'avez pas lu les premiers chapitres de la Genèse sur la chute? Mais c'est impossible. Pourquoi nous raisonnons comme ça? Parce que nous sommes conditionnés par Marcion. Marcion qui a marqué toute l'histoire de l'Église, l'Église occidentale, et la base de l'antisémitisme chrétien au Moyen-Âge, c'est aussi Marcion, en partie du moins, en très grande partie. Alors, justement, la redécouverte du milieu juif dans lequel l'Évangile est né nous amène à voir combien l'Évangile s'enracine dans le milieu juif. Et puis, il y a une autre hérésie aussi, de la même époque à peu près, c'est ce qu'on appelle le docétisme, les docètes. Les docètes, c'était des gens, on trouve par exemple déjà une polémique de Paul contre les docètes dans certaines de ses épîtres, par exemple l'épître aux Colossiens, ou l'épître aux Éphésiens un peu, mais surtout l'épître aux Colossiens. Paul avait affaire déjà à des gens qui étaient déjà des pré-docètes. C'était des gens qui insistaient sur Jésus, le Fils de Dieu, à un point tel qu'il était pratiquement vidé de toute son humanité. Alors il était désincarné. C'était un homme qui n'avait plus de patrie, si je vous dis, qui n'avait plus d'autre origine que le ciel, et qui aurait bien pu aussi bien être un Africain, s'ils avaient connu les Africains à cette époque-là, ou bien un Indien d'Amérique du Sud, que finalement un Juif. Et par conséquent, ça allait très loin, ça aboutissait à penser que Jésus, eh bien l'homme Jésus, on trouve ça dans l'islam, l'islam est un docétisme rebouilli, si j'ose dire. L'homme Jésus, finalement, il y avait deux natures dans Jésus, quoi. Il y avait sa nature humaine et puis sa nature divine. Et que le véritable Jésus, c'était le Jésus spirituel, le Jésus qui était venu du ciel, qui, par exemple, au moment de la croix, est remonté au ciel. Et c'est simplement l'homme Jésus qui a été crucifié. Si bien que le véritable Jésus, le Jésus-Dieu, le Jésus-Fils de Dieu, n'est pas mort sur la croix. Dieu n'est pas mort. En Jésus, Dieu n'est pas mort. Voyez-vous, c'était simplement l'homme Jésus. Et certains sont allés plus loin, l'islam a repris ça. Même d'ailleurs, le Jésus historique a été enlevé au ciel, et puis c'est un vulgaire brigand qu'on a crucifié sur la croix à la place de Jésus. Mais Jésus, historiquement, n'a pas été crucifié, disent les musulmans. Aujourd'hui, ils reprennent ça des docètes. Alors évidemment, c'est pareil. Mis à part les musulmans, plus personne aujourd'hui ne professe le docétisme dans cette outrance-là. Mais nous sommes influencés par le docétisme. Quand on voit, par exemple, les représentations, l'iconographie chrétienne, Jésus et les apôtres habillés à la mode de la Renaissance, avec l'auréole autour de, n'est-ce pas, avec les cheveux longs, etc., et puis l'imagerie, l'iconographie traditionnelle, nous sommes en plein docétisme. On n'a plus rien à voir avec le Jésus humain, le Jésus historique, le Jésus qui s'est incarné, la parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, dont nous parle Jean. Ça n'a plus rien à voir. C'est un Jésus surnaturel, c'est un Jésus surhumain, c'est un Jésus divin, mais qui n'a plus aucun contact avec la terre. Résultat, on ne le prie plus, on ne s'adresse plus à lui, il ne peut plus intervenir aujourd'hui. Comme par exemple, j'avais vu lorsque j'avais parlé aux filles de Saint-Paul, il y a quelque temps ça, eh bien c'était vraiment une réaction typiquement docétiste. Quand je leur parlais justement du Seigneur qui peut intervenir au niveau de nos vies, qui peut s'occuper de répondre à nos prières dans les moindres détails, il y en a une qui m'a dit « Mais j'y crois pas, c'est pas possible, il est là, il est dans le ciel, il est loin, on ne peut pas l'atteindre. » Bon, c'est le docétisme. Ça. Alors ce sont justement des hérésies, ça, qui viennent du fait que l'on a oublié l'incarnation. On a oublié que Jésus était pleinement le Fils de Dieu, mais qu'il était pleinement homme aussi. Et que pleinement homme, il s'est incarné justement dans un milieu, dans une culture, et que son message, son enseignement, sa vie, son comportement s'incarne aussi dans cette culture-là. Et c'est pourquoi, finalement, reprendre cette vision-là, eh bien, c'est rééquilibrer ce qui est une tendance du christianisme occidental à partir de ces deux hérésies fondamentales qui ont été éradiquées en leur temps dans leur forme outrancière, mais dont les séquelles sont restées et ont été à l'origine des hérésies subséquentes, notamment celles qu'on trouve dans le catholicisme historique. Bien, est-ce que vous avez une ou deux questions rapidement ?